Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, après les policiers, d'autres fonctionnaires indispensables à notre vie quotidienne disent leur mal-être. Les directeurs d'école, journée de mobilisation. Il y a 10 jours, le suicide de la directrice de l'école de Pantin. Depuis, les témoignages affluent sur ce mal-être. Quelle réponse possible? Invitée de ce journal, la députée Cécile Rilhac, qui travaille sur le sujet. La réforme des retraites peut-elle vraiment être encore modifiée? La parole des Français compte-t-elle vraiment? Vérification à partir de ce soir, Emmanuel Macron lance à Rodez le grand débat sur les retraites. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
En direct de l'Aveyron, président en retrait ou omniprésent ?
Alors cette fois, Emmanuel Macron sera bien présent à Rodez pour ce premier grand débat retraite, une semaine après l'annulation de l'événement en raison de la mort de Jacques Chirac. Parler des retraites à Rodez, oui. Parler de l'explosion en Rouen, en revanche, pour l'instant, c'est toujours non.
A tout à l'heure, Cyril, et avec Delphine Simon, nous irons en Suède, le pays qui a inspiré cette réforme des retraites. Le tweet matinal de Donald Trump, une belle victoire, écrit-il, alors que l'Organisation mondiale du commerce punit les Européens pour des aides indues à Airbus. L'Amérique en profite pour relancer la guerre commerciale, surtaxe sur toute une série de produits français notamment. Quel risque réel pour l'économie? Élément de réponse avec Laurent Kramer. L'économie qui inquiète, c'est le cas aussi à Rouen. Une semaine exactement après l'incendie Lubrizol, des dizaines de milliers de litres de lait toujours interdits de vente dans tout le nord de la France. Désarroi des agriculteurs.
Ça fait mal au cœur. Moi, me lever tous les jours au matin, c'est un crève-cœur. C'est démoralisant de travailler pour rien.
Reportage complet dans la Somme tout à l'heure dans cette édition. Encore la levée de l'anonymat des donneurs de sperme votés à l'Assemblée. Le climat qui vire à la contestation en Irak. 3 jours d'émeute, 19 morts. Placido Domingo, un peu plus dans la tourmente. Il quitte l'opéra de Los Angeles. Et puis Nike, accusé de complicité dans une affaire de dopage. 13h30, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Au menu aujourd'hui,
je reçois Hubert Reeves. Après avoir consacré sa vie au cosmos, il est aujourd'hui engagé pour la préservation de l'environnement. En tant que président d'honneur de l'Agence française pour la biodiversité, toutes vos questions dès maintenant pour parler écologie et biodiversité avec le scientifique préféré des Français.
01 45 24 7000, le mot-clé sur les réseaux sociaux, c'est l'attaque. France Inter, vous avez le programme jusqu'à 14h30, c'est parti.
France Inter.
Combien d'écoles primaires, des tout-petits au CM2 dont le fonctionnement sera perturbé aujourd'hui en Seine-Saint-Denis? Appel à la mobilisation dans le département. 10 jours après le suicide de Christine Renon, la directrice de l'école maternelle Méhul de Pantin, elle interpellait directement sa hiérarchie dans une lettre qu'elle avait laissée. Rassemblement à Bobigny, mais le mal-être des directeurs d'école s'exprime bien au-delà de la Seine-Saint-Denis. Un rassemblement ce matin également à Montpellier. Une mobilisation attendue ce jeudi dans l'Essonne, en Haute-Garonne. Et depuis 10 jours, les témoignages de directrices et directeurs se multiplient venus de toute la France. La solitude, les petites tâches qui prennent un temps fou, le stress, le manque de reconnaissance, les réformes qui s'enchaînent, à peine une digérée, il faut en appliquer une autre, la journée qui ne suffit jamais. Voici un directeur qui souhaite garder l'anonymat. 12 ans à la tête d'une école de Franche-Comté, ça devient très très dur.
La rentrée était difficile. Le fait de sentir que les collègues avec lesquels je travaille sont en difficulté, pour certains en grande difficulté, et avoir le sentiment qu'on ne peut pas faire grand-chose pour eux. Voilà. À part être là. Être là et puis dire ça va aller, on va y arriver, on va trouver des solutions. Sauf que pour trouver des solutions, il faut du temps. Et on en passe déjà tous beaucoup du temps à l'école. Et en fait, il faudra en passer encore plus. Mais qu'il y a un moment où humainement, c'est plus possible. Cette rentrée, c'est compliqué, oui. C'est compliqué parce que on se sent la responsabilité du fonctionnement, la responsabilité du bien-être des autres, des élèves, des relations avec les parents. Et quand ça déraille et qu'on a l'impression qu'on n'a pas les billes, puis qu'on n'a pas les outils pour que ça fonctionne, c'est difficile.
Voilà pour ce témoignage recueilli par Virginie Vandeville. Bonjour Cécile Rilhac.
Bonjour.
Députée En Marche du Val-d'Oise, auteur d'un rapport sur les directeurs d'école, et vous préparez également une proposition de loi. Une phrase revient très souvent, les directeurs d'école sont seuls. Est-ce que vous partagez ce constat ?
Oui, permettez-moi avant de rendre hommage à Madame Renon, la directrice d'école de l'école Méhul à Pantin, et puis de revenir sur les propos du directeur qui vient d'être interviewé, oui, lorsqu'il parle d'être responsable du bien-être des autres. Et c'est vrai que souvent les directeurs d'école se sentent investis de cette responsabilité, ils se soucient des autres et souvent pas beaucoup d'eux-mêmes. Et ce sentiment peut-être de solitude vient également de ça, c'est-à-dire qu'ils sont responsables d'énormément de choses.
Et trop de choses, la charge de travail est trop lourde, madame ?
Ah bah, ils ont une charge de travail, ils ont des missions qui se sont largement accumulées depuis une trentaine d'années, ne serait-ce que depuis 2015 avec tout ce qui tourne autour de la sécurité, et puis aujourd'hui avec la mise en place de l'école inclusive. Donc voilà en effet des choses qui arrivent, et ce sont les directeurs d'école qui sont les premiers en ligne de mire, c'est eux dans nos écoles qui mettent en œuvre, en effet, pour que tout fonctionne correctement.
Alors, on va venir aux réponses possibles. Encore une question sur le constat. Il y a votre rapport, il y en a un autre qui avait été rédigé par Georges Fotinos, ancien inspecteur général de l'éducation, qui établissait ce constat. Près de la moitié des directeurs d'école en épuisement professionnel, 4 sur 10, un quart dans un état cliniquement préoccupant. Vous avez constaté un malaise de cette ampleur?
Ah bien évidemment, puisque j'ai rendu mon rapport juste avant que Monsieur Fotinos rende son enquête. Nous étions rencontrés au moment de la rédaction de ce rapport. Donc oui, moi je l'ai constaté sur le terrain, que les directeurs ont véritablement besoin aujourd'hui d'être accompagnés dans leur mission. Ils ont besoin en effet peut-être de plus de temps, et c'est pour ça que l'une des pistes de travail que j'avais formulées dans ce rapport était la possibilité d'augmenter ce qu'on appelle les temps de décharge, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, un directeur d'école, pour qu'il soit déchargé complètement de ses missions d'enseignement, il faut qu'il soit dans une maternelle de plus de 13 classes, oui, ou dans une école élémentaire de plus de 14 classes. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Sinon, ils enseignent 2 jours par semaine et ils sont directeurs 2 autres jours. Mais moi, ce que j'entendais sur le terrain, c'est que ces directeurs, lorsqu'ils étaient 2 jours devant leurs élèves, ils étaient quand même le directeur ou la directrice de l'école. C'est-à-dire que tous les petits soucis qui se passaient quand ils étaient devant leurs élèves, eh bien, il fallait quand même qu'ils aient à les gérer. Alors, en fait, ils étaient à 100% directeurs.
Ce que vous proposez, c'est non pas un nouveau statut, parce que le terme est polémique, mais une nouvelle fonction. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est vrai que je travaille depuis quelques mois à une proposition de loi. Il y a des propositions qui sont de l'ordre d'offrir un nouveau cadre de fonction pour ces personnels, qui serait en effet la reconnaissance de leur métier. Aujourd'hui, ce sont des enseignants qui prennent la charge de la direction. Demain, moi, ce que je propose, c'est qu'ils soient des chefs d'établissement de leur école, et puis que, en fonction de la taille de l'école, ils aient d'autres missions, qui peuvent être des missions d'enseignement, qui peuvent être des missions d'accompagnement de leurs collègues, par exemple agir dans la formation, par exemple, des jeunes professeurs. Ils peuvent aussi avoir des missions de coordination avec tous les réseaux qui sont mis en place, que ce soit des REP, des REP+, des PIAL, enfin tout cela. Voilà. Donc c'est un changement de paradigme.
À partir de combien de classes dans l'école est-ce qu'on les déchargerait de l'enseignement, sachant que la moyenne c'est à peu près 5 classes pour une école?
Alors aujourd'hui, quand vous dites 5 classes, c'est lorsqu'ils sont déchargés à mi-temps. Dans le rapport que j'ai coécrit avec Valérie Balzamalgras, nous descendions le seuil de charge à une décharge totale à 10. Voilà, c'était la proposition faite à ce moment-là.
Ça implique beaucoup de création de postes, puisqu'encore une fois, beaucoup, beaucoup d'écoles ont moins de classes que cela.
Exactement. Sur cette proposition d'une dizaine de classes, ça avait été chiffré à peu près 3800 postes. Et la deuxième proposition, c'était que tous les directeurs, c'est-à-dire entre 5 et 10 classes, soient déchargés à mi-temps. Parce qu'aujourd'hui, vous parliez par exemple d'un directeur d'une école de 5 classes, il n'est déchargé qu'un seul jour, par exemple, ce directeur aujourd'hui.
Comment fait-on pour que les directeurs d'école gagnent un peu plus de sous? Ils gagnent aujourd'hui, ils ont une prime, entre guillemets, enfin un surcroît de revenus de 7% par rapport à leurs collègues. La moyenne de l'OCDE, c'est 41%. Est-ce qu'on peut leur donner plus d'argent? Est-ce qu'il faut le faire, Madame Rilhac?
Moi, je pense aujourd'hui, oui, qu'il faut valoriser cette fonction, parce que c'est aussi valoriser et mettre en avant toutes les responsabilités qu'ils ont au quotidien. Et donc, quand vous savez que certains directeurs touchent moins de 200 euros par mois pour ces responsabilités, on peut s'interroger aussi. Sachez que beaucoup, beaucoup de directeurs académiques ont du mal à trouver des enseignants qui acceptent cette charge, parce que c'est énormément de responsabilités.
Mais donc, il y aura un budget pour des primes, par exemple?
Ça, ce sont des choses à négocier. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui doivent être concertées avec les organismes syndicaux, par exemple. Mais ça fait partie des choses, il me semble, qui doivent être étudiées, oui.
Est-ce que votre proposition de loi va être présentée plus vite que prévu dans les semaines à venir, par exemple?
Non, et l'actualité tragique ne doit pas accélérer ou quoi que ce soit. Le temps législatif, le temps parlementaire est un temps long. Je continue d'ailleurs à discuter avec énormément de gens du terrain pour travailler cette proposition de loi. Il me semble extrêmement important de continuer ce travail de fond avec les acteurs de terrain pour faire des propositions qui soient les plus consensuelles et qui fassent véritablement avancer les choses. L'objectif n'est pas de faire une loi d'opportunité. Donc on ne se précipite pas, on continue. Ça fait plus de 18 mois que je travaille sur cette question avec certains collègues de la majorité et nous poursuivons le travail avec, bien entendu, le cabinet également du ministre Jean-Michel Blocquer.
Merci Cécile Rilhac d'avoir répondu à nos questions en direct de l'Assemblée grâce aux moyens techniques de Lucien Lefebvre pour France Inter. Donald Trump, l'homme qui met le commerce international sous tension, a encore frappé. L'Organisation mondiale du commerce ouvre la voie à des sanctions contre Airbus et contre l'Europe. Airbus qui a bénéficié d'aides indues de la part des Européens. Alors l'administration américaine en profite pour publier une liste interminable de produits européens, notamment français, qui vont être plus taxés à leur entrée aux États-Unis. C'est une menace pour l'instant, plus 10 à 25%. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Bruno.
Sur quels produits, avec quelles conséquences?
Alors première victime française de cette liste européenne dressée par Washington, l'aéronautique bien sûr, les avions civils fabriqués par la France et les pays partenaires d'Airbus sont directement visés. 10% de taxes annoncées par Washington. C'est une mauvaise nouvelle, même si les marchés envisageaient un niveau encore plus élevé de sanctions américaines. Malgré ces menaces, l'action d'Airbus vient donc de reprendre des couleurs. Deuxième secteur visé, le vin européen et donc le vin français. Et pour le coup, Washington met la barre beaucoup plus haut et annonce 25% de taxation. Les vignerons français, dont les prix sont plus élevés que les vins italiens ou les vins espagnols, seront donc particulièrement touchés par la mesure, souligne Thomas Montagne, président européen des vignerons indépendants.
Ça ne peut que faire mal, particulièrement pour les vins français qui sont plutôt plus chers que leurs concurrents. Ce sera l'Australie, toute l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud aussi. C'est eux qui risquent de prendre les parts de marché parce qu'eux ne seront pas impactés.
Bonne nouvelle en revanche pour les grandes maisons de luxe et de champagne. Les vins pétillants, les spiritueux et cognac ne figurent pas sur la liste. Rien non plus sur la maroquinerie française. Les producteurs de fromage français devraient également passer entre les gouttes des sanctions envisagées par les États-Unis.
Alors quelle réaction de la France? Écoutons le ministre de l'économie Bruno Le Maire ce matin.
J'en appelle à nouveau aux États-Unis pour que nous nous engagions dans la voie d'un accord à l'amiable. Parce que nous pensons que c'est l'intérêt économique et politique des États-Unis comme de l'Europe. Si l'administration américaine refuse la main tendue par la France et par l'Union européenne, nous nous tenons prêts à réagir par des sanctions qui seraient dans le cadre de l'OMC, sanctions que l'OMC nous autorisera à prononcer. Mais vous voyez bien que nous allons aller dans une escalade de sanctions. Donc ça n'est pas la bonne solution. Nous en avons proposé une autre à l'administration américaine. Je souhaite que les États-Unis écoutent cette voix qui est, à mon sens, la voix de la sagesse.
Bruno Le Maire, ce matin, quant à Donald Trump, eh bien, il a tweeté sur le sujet ce matin au réveil en parlant d'une belle victoire à propos de la décision de l'Organisation mondiale du commerce. Jacques Chirac enterré, Emmanuel Macron peut reprendre une activité normale. Et l'activité normale pour le président depuis les Gilets jaunes, eh bien, quand il ne dresse pas le bilan d'un grand débat, c'est qu'il en prépare un autre. La version retraite commence ce soir à Rodez. Le président face à 500 personnes, 500 lecteurs de la presse régionale dans le coin. Alors est-ce le retour des Macron chauds, bras de chemise et réponse à tout? La soirée doit durer 3 heures. Cyril Graziani, vous êtes en direct de Rodez. Alors revoilà l'hyper-président, mais avant cela, arrêtons-nous Cyril sur un silence d'Emmanuel Macron. Ils ne sont pas si fréquents, pas de déplacement, pas de commentaires sur l'incendie à Rouen, Cyril.
Et pourtant, il est pressé par nombre de ses proches de reprendre le contrôle. Mais lui considère que c'est trop tôt. La gestion du dossier Rouen, c'est à Matignon, pas à la présidence. Sauf qu'une de ses proches nuance tout de suite. Tu ne peux pas passer ton temps à dire la maison brûle et ne pas parler quand une usine chimique explose. Hors de question pour l'Élysée pour l'instant donc de faire monter le président en première ligne. Dans l'acte 2 du quinquennat, il n'est pas le pompier de toutes les situations sans mauvais jeu de mots, juge un de ses conseillers. Trop tôt donc pour abattre cette carte présidentielle.
Bon, à Rodez, il sera bel et bien là, hein.
En revanche, sur les retraites, il veut être aux avant-postes pour porter et incarner cette réforme phare du quinquennat, mais périlleuse. Seul, ce soir, face à 500 lecteurs de La Dépêche, le quotidien régional. Revoilà donc le grand débat qui a été remasterisé. Plus d'écoute et de proximité, jure l'Elysée, car le paradoxe du grand débat version gilet jaune, relève un proche, c'est qu'il s'agissait souvent d'un monologue. 3 heures d'échange donc sont prévues. Avec Emmanuel Macron, ça peut durer infiniment plus longtemps.
Cyril Graziani, prenez des barres énergétiques. politique. Vous êtes avec Marc Garvenès pour les moyens techniques. Et à propos de ces retraites, bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Comment ça se passe ailleurs en Europe? Votre chronique chaque jeudi dans ce journal de 13h. Le projet de réforme des retraites, c'est la mise en place d'un régime unique. Fin des 42 régimes spéciaux ou autonomes. Retraite universelle à point. Delphine, c'est en Suède que le chef de l'État prend notamment son inspiration. Alors allons voir chez nos voisins avec vous comment ça marche ce modèle scandinave des retraites.
Oui, c'est vrai. Durant la campagne, Emmanuel Macron a dit qu'il allait s'inspirer du modèle notionnel de la Suède. C'est le même qu'en Italie. C'est un régime unifié où les droits sont comptabilisés en euros, stockés jusqu'à l'âge de la retraite sur un compte virtuel. Chaque euro cotisé donne les mêmes droits à tous, quel que soit le statut ou le métier, et chaque période compte, congé parental, formation et chômage.
Et le départ à la retraite, à quel âge en Suède?
Les Suédois peuvent partir dès 61 ans, mais avec la moitié de leur dernier salaire. Pour gagner plus, il faut travailler plus longtemps. Chaque année, l'État suédois envoie à chaque actif une information sur l'état de son compte, le montant cotisé par lui-même et par son employeur, le montant attendu de sa future pension, ainsi qu'un rapport sur l'équilibre financier du régime dans son ensemble, une lisibilité que n'offre pas le système français actuel.
Bon, est-ce que ça marche?
Alors, d'un point de vue financier, tout à fait, monsieur. À chaque génération reçoit exactement ce qu'elle a donné. Il n'y a pas de transfert aux enfants et aux petits-enfants de la dette ou des excédents d'aujourd'hui. Le régime s'ajuste automatiquement en fonction des cotisations collectées. S'il y a plus de chômage, les pensions baissent. C'est arrivé deux fois en Suède en 20 ans. Le régime est donc à l'équilibre, mais il y a eu des perdants, les carrières hachées ou incomplètes. Le système désavantage donc beaucoup les femmes, ceux qui ont fait des études longues et les travailleurs précaires.
Et comment les Suédois s'y sont pris?
Eh bien, on l'imagine, au pays du dialogue social, le gouvernement a pris son temps, 13 ans, pour parvenir au nouveau système. Il y a eu une concertation nationale, une refonte adoptée à l'unanimité et une période de transition entre 2001 et 2018. La réforme a suscité le consensus. Mais on oublie souvent de le dire, les Suédois ont de grosses retraites complémentaires et un système de retraite de base solide. Bref, tout cela compense en partie les défaillances de la réforme.
Merci Delphine Simon. Voilà pour Stockholm à Rodez. Les débats commencent à 18h30. Philippe Martinez, numéro 1 de la CGT, invité ce matin de France Inter. Que pense-t-il des tout premiers pas du futur PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, grand oral du successeur de Guillaume Pépi, devant les députés hier? Petit extrait. Il y va franchement, monsieur Farandou.
Il faut absolument que les salariés de la SNCF soient pas attachés à une seule famille de tâches et acceptent de faire plusieurs tâches. Vous avez vu que j'ai un peu d'ancienneté dans cette maison. Ben, quand moi je suis rentré à la SNCF, il y avait des gens polyvalents. C'est pas nouveau, la SNCF. Les gens dans les gares, ils faisaient tout. Ils vendaient les tickets, ils faisaient passer les trains, ils livraient les wagons et ils passaient un coup de balai s'il le fallait. À la SNCF, se sont sédimentés au fil des décennies des tas de petits accords locaux qui ont tous, en fait, pour effet que les gens travaillent moins que 35 heures.
Alors, qu'en dit Philippe Martinez de ses déclarations? Réponse ce matin sur France Inter, le numéro 1 de la CGT.
On dirait pas qu'il a fait toute sa carrière à la SNCF, ou alors il va jamais voir les cheminots, parce que, premièrement, c'est pas des feignants, parce que cette petite musique consistant à dire que tous ceux qui ont des statuts, etc., c'est des gros feignants, ça suffit. C'est des salariés qui se lèvent de très bonne heure, qui dorment pas tous les jours chez eux, parce que ceux qui conduisent, c'est des salariés qui travaillent le samedi, le dimanche, mais comme d'autres fonctionnaires. Je pense aux électriciens, par exemple, quand il y a des tempêtes, que le courant est coupé, qui monte au pylône, qu'il naît, qu'il pleuve, que ce soit un jour férié ou pas, c'est eux. Donc il faut arrêter avec cette musique. Et je pense que le futur PDG de la SNCF commence mal.
Une semaine exactement depuis l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. On parlait hier des conséquences environnementales et sanitaires. Il y a aussi des conséquences économiques, évidemment. En 30 ans, je n'ai jamais connu pareille situation dans l'industrie laitière, dit le patron de la fédération qui chapeaute ce secteur. Tant que les analyses complètes ne sont pas achevées, les analyses de toxicité, tous les produits laitiers en provenance des Hauts-de-France aussi sont considérés comme potentiellement dangereux. Résultat, dans la Somme, par exemple, plus de 77 000 litres de lait sont jetés chaque jour. Rencontre avec un agriculteur de la Somme, Valérie Massip.
Jacques Briouat a déjà jeté 4000 litres de lait.
C'est 4000 litres avec la qualité à 350 euros les 1000 litres, ce qui fait 1200 euros. Ça fait mal au cœur. Moi, me lever tous les jours au matin, enfin, ça va, c'est un crève-cœur. C'est démoralisant de travailler pour rien.
Mais l'agriculteur comprend qu'on applique le principe de précaution.
Oui, parce qu'après, ça peut être vachement plus grave. Après, si les gens ont consommé du lait comme ça, puis qu'il arrive quelque chose de grave, je comprends. Mais bon, c'est vrai que ça fait beaucoup, quoi.
Et Jacques Briouat doit continuer à travailler comme d'habitude.
Mes vaches, il faut que je leur donne à manger. Je ne veux pas dire, ben non, si c'est pour jeter le lait, je leur donne plus à manger. Non, c'est pas possible, parce que les vaches, elles sont en production. Si je les casse à ne plus leur donner à manger, c'est fini la lactation, elle est cassée, c'est terminus. C'est fini, j'ai pas le choix.
L'éleveur traite donc ses vaches matin et soir. Lui est sûr que son lait est bon, ses bêtes sont enfermées, ne broutent pas d'herbe à l'extérieur. Elles mangent du maïs récolté bien avant le passage du nuage de fumée. Mais d'ici demain, le lait qu'il stocke depuis mardi dans une citerne devra lui aussi être jeté à la fosse. Alors quand on lui dit que les résultats des analyses ne seront pas connus avant la semaine prochaine...
Encore attendre, moi je peux plus. Je ne peux plus attendre, il va falloir trouver une solution.
Voilà pour ce reportage de Valérie Massip. L'Assemblée nationale continue l'examen du projet de loi bioéthique voté hier soir, la levée de l'anonymat des donneurs de sperme. Les députés donnent leur aval à cet article, 57 voix contre 16 et 10 abstentions. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
C'est une petite révolution. Hein.
Oui, alors voilà comment a réagi Arthur Kermal-Vezen, c'est le président de l'association Origine qui porte depuis des années cette revendication. Il a dit « on en rêvait depuis 15 ans et le gouvernement l'a fait. » Et vous avez raison, c'est une évolution notable, car cet anonymat c'était un dogme en France. Alors, le texte prévoit donc que les enfants nés après l'entrée en vigueur de la loi pourront avoir accès à leur majorité à des données soit non identifiantes, c'est la couleur des yeux, des cheveux, soit l'identité du donneur. Les donneurs devront donc accepter cette levée d'anonymat ou bien, eh bien, ils ne donneront pas. Agnès Buzyn a précisé toutefois qu'il n'y aura jamais une obligation de rencontrer les enfants nés du don. Cette loi ne sera pas rétroactive, ce qui signifie que les enfants majeurs aujourd'hui, mais nés d'anciens dons, n'y ont pas accès. Un amendement qui visait à ce que ces enfants puissent engager eux-mêmes des démarches pour retrouver leur donneur a été retoqué. Une campagne d'information sera lancée, mais dans l'autre sens. C'est pour dire aux anciens donneurs que si eux le souhaitent, ils pourront prendre l'initiative d'accorder la transmission d'informations les concernant. Enfin, les futurs donneurs pourront connaître le nombre d'enfants nés de leur don. Enfin, à ce stade, car c'est passé contre l'avis du gouvernement, à voir donc si, après le Sénat et en deuxième lecture, ce sera encore d'actualité.
L'actualité à l'étranger, ce slogan ras-le-bol des corrompus, des emplois pour les jeunes, la contestation prend de l'ampleur. En Irak, 19 personnes tuées en 3 jours de manifestation. Des tirs à balles réelles contre les manifestants et le couvre-feu à Bagdad. Le climat tourne au très vilain, Lucie Wasserman.
La situation a pris un autre tournant depuis hier à Bagdad. Un couvre-feu a été instauré ici. Les rues normalement noires de monde sont aujourd'hui quasiment vides. Ce couvre-feu devrait se prolonger jusqu'à nouvel ordre. Autre mesure radicale prise par le gouvernement, tout le réseau Internet a également été coupé ici. En parallèle, deux fortes explosions ont été entendues au milieu de la nuit. Des explosions que la coalition internationale a confirmées dans un communiqué ce matin et qui se sont produites à l'intérieur de la zone verte. Ce quartier ultra sécurisé à Bagdad, où sont basées la plupart des institutions politiques. Nous n'en savons pas plus pour le moment, mais selon les médias locaux, il s'agirait de tirs de roquettes, des tirs qui ne sont pas sans précédent. Les États-Unis les avaient récemment attribués à des groupes pro-iraniens. La situation est donc extrêmement confuse. Rien, pour l'heure, ne permet de penser que ces tirs viendraient des manifestants qui, je vous le rappelle, protestent depuis ce mardi contre le manque de services et contre la corruption dans le pays.
L'équipementier sportif Nike et son PDG en particulier étaient-ils au courant, voire complices, d'un programme de dopage athlète américain mené par un entraîneur marron? Démenti formel de Mark Parker, le patron de Nike. Pourtant, des accusations et des mails embarrassants sont rendus publics à l'initiative de l'agence américaine antidopage. Échange entre Parker et l'entraîneur dans la tourmente, le célèbre Alberto Salazar. Ce que le grand public découvre à cette occasion, c'est à quel point un équipementier sportif comme Nike peut être impliqué très directement dans l'entraînement de sportifs. Bonjour Vincent Pellegrini.
Bonjour Bruno.
Vincent, spécialiste de l'athlétisme à France Inter, vous êtes en direct de Doha, Qatar, où se déroulent les championnats du monde d'athlétisme. Et c'est dans le cadre de ces championnats du monde qu'éclate ce scandale. Alors, parlons de ce projet Oregon, par lequel le scandale arrive. Projet Oregon que le PDG de Nike et Salazar ont échangé dans ce cadre-là. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est bien Nike qui est à l'origine de ce centre d'entraînement Oregon Project, créé en 2001 dans l'État où se trouve d'ailleurs le siège de l'équipementier. Ce n'est pas un hasard. Ce centre devait permettre à des athlètes américains d'améliorer leur performance dans les épreuves de fond et de demi-fond, largement dominées à l'époque et encore un petit peu maintenant par les coureurs africains. Alors, pour diriger ce centre, Nike avait choisi Alberto Salazar, un marathonien de renom, spécialiste donc de les épreuves d'endurance. Et ce centre a recruté aider pendant des années de jeunes athlètes qui vivaient à temps plein dans cette structure, comme cela se fait dans les campus américains. Et Alberto Salazar, dans ce cadre, a très vite utilisé des méthodes controversées à la limite de la légalité jusqu'à cette enquête de l'agence américaine antidopage qui a abouti à cette suspension de 4 ans de l'intéressé. Les athlètes étaient des animaux de laboratoire, a déclaré le patron de l'agence américaine, Travis Tygart, qui a ajouté que beaucoup d'athlètes concernés qui s'entraînaient dans ce centre n'étaient pas au courant qu'ils prenaient des produits interdits. Rappelons, Bruno, que plusieurs athlètes présents ici à Doha s'entraînent depuis des années dans l'Oregon avec Alberto Salazar. C'est le cas de 2 athlètes qui viennent d'être sacrés champions du monde, la néerlandaise Sifan Hassan sur 10 000 mètres et l'américain Donovan Brazier sur 800 mètres. Tous deux ont expliqué qu'ils n'avaient absolument rien à se reprocher et du côté de la Fédération internationale, on minimise l'affaire. Son président Sébastien Coe a dit que cela ne faisait pas dérailler les mondiaux. C'est peut-être un problème pour les médias, mais en réalité, ce n'est pas un sujet majeur pour les gens qui regardent les championnats. Fin de citation. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir.
Merci Vincent Pellegrini. Ce qu'il y aura à voir à Doha, Qatar cet après-midi, c'est la suite et la fin du décathlon avec peut-être un nouveau titre pour Kevin Mayer. Pour l'instant, il est 3e. Ça sent la fin de carrière pour le ténor Placide Domingo, accusé par plusieurs femmes de harcèlement sexuel. Il a quitté hier la direction de l'opéra de Los Angeles, démission qui fait suite à des représentations annulées en cascade aux États-Unis. Stéphane Capron.
La semaine dernière, Placido Domingo avait été remplacé par un autre ténor dans la nouvelle production de Macbeth au Metropolitan Opera de New York, mettant fin à 51 ans de carrière au Met. Des musiciens et des choristes s'étaient émus de sa présence dans la distribution. D'autres institutions, le Philadelphia Orchestra et le San Francisco Opera, avaient aussi annulé les contrats de Placido Domingo. En annonçant lui-même, hier, sa démission de la direction de l'Opéra de Los Angeles, un poste qu'il occupait depuis 2002, le ténor signe le coup de grâce de sa carrière tout en rejetant les accusations portées à son encontre. Dans une enquête publiée mi-août, 9 femmes, dont une à visage découvert, ont affirmé avoir été harcelées sexuellement par le chanteur à compter de la fin des années 80. De Placido Domingo, il restera les enregistrements discographiques mythiques, dont ceux des 3 ténors avec José Carreras et Luciano Pavarotti. Il rend d'ailleurs hommage à ce dernier dans le documentaire qui sort le mois prochain au cinéma. Domingo ironise sur le pouvoir d'attraction de Pavarotti auprès des femmes, un témoignage enregistré bien avant le début de cette affaire qui ne manquera pas de faire réagir les milieux féministes.
La voix de Placido Domingo, le chanteur aujourd'hui dans la tourmente.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Élodie Calac.
Du Grand Est vers les Alpes et la Côte d'Azur, c'est du soleil. Sur le sud de la Corse, quelques averses possibles, parfois même un orage. Des Hauts-de-France vers la région parisienne, la Bourgogne, le Massif central et la vallée du Rhône, le soleil est parfois bien voilé. Le vent de nord souffle jusqu'à 60-70 km à l'heure autour de la Méditerranée. De la Normandie vers la Vendée, la Touraine, le sud-ouest, là c'est lumineux, on a de belles éclaircies. En revanche, ça devient plus nuageux sur la Bretagne, sur le Cotentin, à l'approche d'une perturbation. Les premières gouttes gagnent l'ouest de la Bretagne, poussées par un vent de sud-ouest jusqu'à 60 km à l'heure. Les températures sont fraîches, 14 degrés à Lille, 15 au Havre, à Paris, Nancy ou Dijon, 17 degrés à Angers et à Lyon, 21 à Bordeaux, 22 à Toulouse, 24 à Toulon et 27 degrés pour Ajaccio. Demain, il faudra composer avec la pluie sur le nord et l'est du pays. Ailleurs, ce sera calme avec de belles éclaircies sur le sud-est et sur les régions allant de la Bretagne et des Charentes vers le centre.